Nous ne nous sommes pas concertés, André et moi, ce matin, mais il a déjà lu pas mal de textes bibliques que j'avais envisagé de lire ce matin. Et en plus, j'ai choisi deux psaumes pour la prédication de ce matin. Je ne sais pas, mais s'il y a des moments dans votre vie, et je pense que c'est le cas de nous tous, n'est-ce pas, où vous vous sentez comme le temps en été, c'est-à-dire sec, desséché, languissant, où votre âme est peut-être accablée et votre cœur troublé, où parfois les mots vous manquent pour dire à Dieu ce que vous ressentez. Je pense que les deux psaumes que j'ai choisis ce matin sont pour vous. Il s'agit des psaumes 42 et 43 que nous allons lire maintenant. Psaumes 42 et 43. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu? T'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. C'est vrai que l'une des lectures bibliques que nous apprécions le plus souvent dans la Bible, c'est la lecture des psaumes, n'est-ce pas? Et nous avons déjà lu et cité pas mal de psaumes ce matin. Les psaumes qui se trouvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, au cœur de la Bible, au cœur de la Bible. Et ils sont lus souvent dans les cultes de toutes les églises, comme on l'a fait ce matin. Et vous avez sans doute remarqué que pas mal de chants que nous chantons aujourd'hui sont tirés des psaumes. Nous chantons pas mal de prières de la Bible et surtout des psaumes. Comme l'a si bien dit quelqu'un, les psaumes sont la vie devenue prière. Les psaumes sont la vie devenue prière. Et nous les apprécions justement pour cela, car ils nous parlent effectivement d'expériences vécues par leurs auteurs. Ce n'est pas la doctrine, même si la doctrine est nécessaire, n'est-ce pas? C'est du vécu. C'est du vécu. À chaque fois, dans chaque psaume, c'est une expérience souvent douloureuse, mais pas toujours, que le psalmiste relate après l'avoir vécu. Calvin, dans la préface de son commentaire au psaume, au livre des psaumes, dit en parlant des psaumes ceci: « Le Saint-Esprit vous a mis à vivre toutes les douleurs, les tristesses, les craintes, les doutes, les espérances, les préoccupations, les perplexités, jusqu'aux plus confuses émotions qui agitent habituellement l'âme des hommes. » C'est vrai que les psaumes sont pleins de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Pleins de la vie de tous les jours. Ils sont, comme disait quelqu'un d'autre, humains, terre à terre, pétris de chair et de sang, miroirs de nos révoltes et de nos infidélités. Les psaumes sont des dialogues de l'homme avec Dieu. Le psalmiste s'approche de Dieu et entend une démarche de dialogue avec lui, soit pour lui remercier de sa bonté, soit pour lui demander de le délivrer de telle ou telle situation pénible, dangereuse, soit pour lui poser des questions, des interrogations dont il attend une réponse. Et on le voit, il s'adresse à Dieu avec franchise, avec honnêteté, avec une liberté qui parfois nous surprend, n'est-ce pas? Quand il souffre, il dit ses souffrances. Il interpelle Dieu, il ne cache pas sa colère. Mais quand il est heureux, il dit sa joie, son allégresse au Seigneur. Il ne cache pas sa joie, il chante, il danse, il rit. Le psalmiste, en fait, ne triche pas avec Dieu. Il se présente devant Dieu tel qu'il est, dans toute son humanité. Même si les contextes de nos jours sont différents de ceux des psalmistes, n'est-ce pas? Je pense que nous pouvons facilement nous identifier à ce qu'ils disent dans ces psaumes. Nous pouvons, nous aussi aujourd'hui, ressentir exactement les mêmes émotions et oser nous aussi confier nos vies au Seigneur, nos vies, nos joies, nos souffrances, nos angoisses et nos paix au Seigneur, parfois même nos révoltes au Seigneur. Or, quand on lit les deux psaumes de ce matin, on constate que le psalmiste est dans le registre de l'épreuve et du découragement, des choses qui peuvent nous arriver à nous aussi, n'est-ce pas? L'épreuve et le découragement. Il s'interroge, il a l'impression que personne ne l'écoute, même pas le ciel. Et il ne sait pas comment s'en sortir dans sa situation pénible. C'est sans doute une situation qui ressemble à ce que nous ressentons à certains moments de nos vies, lorsque nous passons par des circonstances adverses, pénibles, difficiles, lorsque nous traversons, comme on dit, le désert, n'est-ce pas? Et que nous avons l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond. Ces deux psaumes ont donc quelque chose à nous dire, à nous aussi, aujourd'hui, ce matin. Déjà, ils nous rappellent que nous ne sommes pas les premiers à passer par des épreuves, par des situations pénibles comme celle-ci. D'autres, bien avant nous, sont passés par là. Et que nous ne sommes pas les seuls à vivre des choses difficiles, des choses pareilles. Mais je crois, et c'est ça que je voudrais que nous retenions ce matin, ils nous disent surtout comment passer de l'épreuve et du découragement à la joie, à la sérénité, à la paix. Alors voyons brièvement le contexte de ces psaumes. Je dois d'abord dire que si je vous ai proposé de les lire l'un après l'autre, c'est pour une raison toute simple, c'est que ces deux psaumes constituent très probablement un seul et même poème. D'ailleurs, dans plusieurs manuscrits anciens, ils apparaissent ensemble, ils sont reliés. Ils ont une structure identique qui est faite pour aller ensemble. Ils ont le même refrain. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Refrain qui apparaît à trois fois, n'est-ce pas ? Trois fois dans ces psaumes. Donc, c'est un refrain qui divise le psaume en trois strophes. La première strophe va du verset 1 jusqu'au verset 6 du chapitre 42. La deuxième va du verset 7 au verset 12, et la troisième, c'est le psaume 43. Et il y a une progression qui va d'une strophe à l'autre, et je dirais, il faut la troisième strophe, le psaume 43, pour que ça forme un tout. Le thème des deux est le même, celui de la grande douleur que le psalmiste ressent, d'être exclu du sanctuaire de l'Éternel. On le voit au verset 5 du chapitre 42, quand il dit « Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Et au psaume 43, verset 3, « Envoie ta lumière et ta fidélité, et qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » D'autre part, il se peut que ces psaumes, ces deux psaumes, aient été écrits par David pour les fils de Corée. En effet, il correspond à une période, très bien une période spécifique de la vie de David que nous allons voir tout à l'heure. C'est vrai que dans nos Bibles, on a mis comme titre « Au chef des chantres cantiques des fils de Corée ». Je pense que vos Bibles, dans vos Bibles, c'est la même chose, n'est-ce pas? Les fils de Corée étaient des chantres, on pourrait dire professionnels, qui ont été embauchés dans le culte pour célébrer et pour conduire la louange et le peuple dans la louange. Or, il se peut que ce titre signifie tout simplement que ce psaume appartient au recueil des fils de Corée, mais sans préjuger de son auteur. Et vu le contexte, il se peut très bien que l'auteur soit David lui-même. En ce qui concerne le contenu de ces deux psaumes, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une situation d'épreuve et de découragement, comme je le disais tout à l'heure. Sa situation est extrêmement douloureuse. Il est privé du culte public à Dieu, rendu à Dieu à Jérusalem. Jérusalem qui était le centre du culte israélite, le centre de l'activité cultuelle du peuple d'Israël. Au verset 5, il dit se rappeler avec nostalgie de ce temps où il pouvait aller librement en procession à la maison de Dieu, au milieu des cris de joie d'une multitude en fête, avec des danses et au son des trompettes. Maintenant, il était triste. Il était triste car il était empêché de le faire. Il était empêché d'adorer Dieu avec son peuple, dans la capitale, le centre du culte israélite. Mais ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était pire. Le verset 7 semble dire qu'il a dû quitter Jérusalem pour se réfugier à Hermon, c'est-à-dire à la frontière nord du pays. Je n'ai pas de carte ici pour vous montrer, mais il y a Jérusalem en bas, il y a la Galilée avec la mer de Galilée au nord, et Hermon se trouve encore plus au nord, très éloigné de Jérusalem. Ce qui semble correspondre tout à fait à la situation vécue par David lors de la conspiration de son fils Absalom contre lui. David a été obligé de fuir Jérusalem, fuir loin de Jérusalem pour échapper à la méchanceté de son propre fils, pour échapper à la mort, pour échapper d'être assassiné par son fils et par ceux qui se sont ralliés à Absalom. Le récit de ces événements se trouve dans le deuxième livre de Samuel à partir du chapitre 15, 16, 17, etc., que vous pouvez lire à la maison. C'est une période de grande détresse pour David. Il souffre beaucoup car il est rejeté et trahi par son propre fils. Son propre fils à qui il avait fait grâce d'ailleurs lorsqu'il avait tué son demi-frère. Il est trahi par une partie de son peuple qui s'est rallié à Absalom, ce peuple sur lequel Dieu l'avait établi roi. Il est soumis aussi à la moquerie, au sarcasme et même au mépris de certains. Au verset 4, Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Au verset 10, à la fin du verset 10, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Et au verset 11, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Cela semble correspondre tout à fait à ce que nous lisons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 16, lors de cet exil forcé de David, n'est-ce pas? Un certain Shimei de la famille de Saül est venu prononcer des malédictions contre David, l'appelant de criminel, de vaurien, en insultant, en lui jetant même des pierres. Et certains autres à qui il avait fait du bien l'avaient quitté aussi, l'avaient abandonné pour rejoindre Absalom. Au verset 8, pour montrer sa douleur, il utilise une illustration, celle de la tempête. Des vagues qui le submergent et qui lui font perdre pied, boire la tasse. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi, dit-il. Il a l'impression que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a oublié, que Dieu l'a rejeté. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu, dit-il au verset 2 du chapitre 43. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Il est dans une situation vraiment de détresse, de découragement, de dessèchement, d'abattement. Et il pleure jour et nuit selon son propre témoignage. Même si les problèmes ne sont peut-être, nos problèmes ne sont pas identiques à ceux du psalmiste, ce qui est sûr, c'est que nous aussi, parfois, nous passons par des moments comme cela, n'est-ce pas, de détresse, de fatigue et même découragement face à certaines épreuves, à certains événements de notre vie. Et si les problèmes ne sont pas les mêmes, les émotions sont souvent les mêmes. Nous ressentons les mêmes émotions que celles exprimées dans ces deux psaumes. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans des moments de sécheresse spirituelle, au lieu de faire comme le psalmiste a fait, nous faisons autrement, nous faisons le contraire. Nous n'allons pas nous abreuver à sa source. Nous allons nous abreuver à la mauvaise source. Ou alors nous ne nous abreuvons pas du tout, n'est-ce pas? Nous oublions même de le faire. Et nous nous déshydratons. Notre foi se déshydrate. En effet, partant sec, on peut facilement se déshydrater sans se rendre compte. Et c'est là qu'il faut se rappeler qu'il vaut mieux pour nous de faire ce que le psalmiste a fait. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Voyons ce qu'il a fait. C'est intéressant de voir la démarche du psalmiste. Et je pense qu'il s'agit de David, comme je disais tout à l'heure. Avant même que sa situation ne change, car il est toujours en exil, il est toujours éloigné de Jérusalem, c'est son attitude qui va changer. Sa situation ne change pas, mais son attitude, oui, son attitude change. Au lieu de s'éloigner de Dieu, comme on a souvent tendance de le faire, n'est-ce pas, quand on passe par des situations difficiles, il soupire après Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, dit-il. C'est à toi que je pense dans le pays du Jourdain, dit-il au verset 7, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Oui, je suis éloigné du lieu de culte, mais je pense à toi. Je pense à toi, je soupire après toi. Il sait que c'est Dieu la source d'eau vive et que c'est auprès de lui qu'il peut se désaltérer. Et là, certains font comme disait Jérémie à son époque, Jérémie qui disait « Mon peuple a commis d'un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Souvent, c'est la même chose que nous faisons, n'est-ce pas ? Nous creusons des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Nous allons voir ailleurs. L'Ecclésiaste dit que Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme cherche beaucoup de détours. Au lieu d'aller à la source, on voit ailleurs, à gauche et à droite. Dans ces moments de détresse, il est bon de se rappeler que c'est auprès de Dieu qui se trouve. C'est auprès de Dieu que nous trouvons la source d'eau vive. C'est Lui qui nous donne la vie, c'est Lui qui peut maintenir notre vie, c'est Lui qui peut hydrater notre foi, notre vie spirituelle. Et comme disait l'apôtre Paul, notre frère André l'a cité ce matin, n'est-ce pas, rien ne pourra nous séparer de Lui, de Dieu, la source de vie. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est bien de se rappeler dans ces moments de détresse. L'autre chose intéressante que le psalmiste fait, c'est non seulement de soupirer après Dieu, mais aussi d'exhorter son âme. Et quand je lis ces psaumes, j'ai l'impression que le psalmiste est en train de lire quelque part, de dire à haute voix, quelque part dans sa chambre ou dans la forêt en se promenant, « Mon âme, pourquoi t'as battu dedans moi ?» etc. J'ai l'impression qu'il parle à haute voix. Il met des mots sur ses mots, des mots O-M-T-S sur ses mots A-U-X, X, n'est-ce pas? Il essaye de définir ce qu'il ressent. Il essaye de définir sa détresse et c'est important de pouvoir le dire. Parce que quand on essaye de définir notre souffrance, on est en train de chercher à trouver la racine de notre souffrance. Il essaye de définir sa détresse, définir sa souffrance. Il interroge son âme, il s'interroge lui-même. Il demande à son âme les raisons de son abattement, de sa tristesse. Et il répond avec des paroles d'espérance et de confiance. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. En fait, il ne permet pas que ce soit ses états d'âme qui gèrent sa vie, ses émotions qui gèrent sa vie. Et ça, c'est un problème auquel nous devons faire face, n'est-ce pas? Combien de fois nous laissons nos émotions gérer notre vie? Il ne permet pas à ses états d'âme, à ses sentiments, de gouverner sa vie. Mais l'espérance, la confiance dans ce Dieu qui a promis de ne pas l'abandonner, c'est ça qu'il met en avant. C'est Dieu même dans sa vie. Il veut que Dieu dirige sa vie. Enfin, il fait une troisième chose, il prie. Et on sait l'importance, n'est-ce pas, l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Les effets ô combien positifs et bénissants de la prière dans nos vies. Il présente sa situation au Seigneur telle qu'il est, telle qu'il la ressent. Il le fait avec honnêteté, avec franchise, sans rien cacher. Il présente son état, il ouvre son cœur au Seigneur. Et au chapitre 43, sa prière transforme ses questions, ses interrogations, ses doutes, ses souffrances en certitude, en certitude. Il passe du découragement, de la tristesse, à la confiance, à la sérénité, à la certitude et à la joie. Il peut avoir confiance que les promesses de Dieu se réaliseront et que Dieu n'abandonne pas ses enfants. La prière lui fait prendre conscience de la fidélité et de la puissance de Dieu. En fait, c'est une bonne chose, je pense, de faire comme lui. Soumettre nos problèmes, nos difficultés, nos tristesses, nos angoisses au Seigneur dans la prière et retrouver finalement la paix, la sérénité. La parole de Dieu nous exhorte à faire connaître à Dieu tous nos besoins, je cite, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et écoutez bien la promesse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voilà la promesse du Seigneur. On sait bien, frères et sœurs, que la vie chrétienne, comme on dit, n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Le Seigneur ne nous a pas promis de nous épargner les difficultés de la vie. Elles font partie de la vie, n'est-ce pas? Nous avons parfois des moments difficiles, de détresse, de sécheresse spirituelle. Et parfois, ce ne sont pas les autres qui nous demandent « Mais où est ton Dieu ?» C'est nous-mêmes, n'est-ce pas, qui nous posons la question « Mais où est mon Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie ?» La Bible est là pour nous dire qu'il est toujours là. Il est toujours là avec nous, car il est la source de la vie, la source d'eau vive, celle qui peut étancher notre soif, celle qui peut nous maintenir en vie. On sait par le récit biblique que David a finalement retrouvé sa place à Jérusalem. Son fils Absalom a été tué et David a pu revenir à Jérusalem et adorer Dieu de nouveau avec son peuple dans le temple. Alors faisons comme lui. Faisons comme lui. Venons au Seigneur et disons-lui nos souffrances telles qu'elles sont. Et le Seigneur nous relèvera. Car c'est auprès de lui que nous pouvons être restaurés, désaltérés, renouvelés. Et j'ai envie de terminer cette méditation par un autre psaume. C'est le psaume 23. Et c'est par là que nous allons terminer, parce que c'est un psaume qui a été écrit par David. Et là, c'est sûr, c'est écrit, psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Que le Seigneur bénisse sa parole.